Elvis.
Rock, rock, techno, rap and groove.
Bonjour, bonsoir, bon appétit, vous êtes sur Radio Campus 88.3 et vous écoutez Double Saut, une émission qui parle de jeux vidéo, pas comme les autres. Je suis Clément.
Et je suis Amir.
Et je suis aussi Charlie.
Pardon. Les amis, on est tous Charlie.
Ah bon? Comment allez-vous? Comment vas-tu?
Mais je vais bien, écoute, c'est le mois d'août, il fait beau, hein, c'est le mois d'août le plus chaud jamais enregistré dans le monde, donc on peut dire youpi.
Ouais, je pense qu'on peut s'en réjouir. C'est des bonnes nouvelles, non?
Félicitons-nous, encore une fois. Nous allons parler consommation et jeux vidéo, mesdames et messieurs.
Oui, pas du tout. De quoi parlons-nous?
Peut-on parler des jeux qu'on n'a pas fait ou même pas fini? Et alors, moi, je vais tout de suite citer un livre que je n'ai pas lu. Comment parler des livres que l'on n'a pas lu par Pierre Bayard. Bon, voilà, c'est un petit livre essai assez amusant de ce qu'on m'a dit, mais n'en parlons pas, nous ne l'avons pas lu. Je vais te passer la main, Clément.
Non mais tu me passes vraiment ta main?
Oui.
Eh ben prends la mienne. Quand on parle de parler, donc de jeux pas faits, alors on va plus parler de jeux qu'on n'a pas fini plutôt que pas faits. Ou alors faudra définir la ligne à partir du moment où tu considères que tu as commencé un jeu. Très intéressant ça. Donc quand on parle de parler, il y a une notion de critique, ou bien sûr à revenir sur une définition très basique de la critique. La critique, c'est l'art de juger les ouvrages de l'esprit, les œuvres littéraires et artistiques. C'est beau.
C'est beau, et c'est ce que nous faisons, hein. Nous critiquons les œuvres vidéoludiques maintenant depuis presque 2 ans, mesdames.
C'est fou, hein, le temps passe vite. Oui, parce que critique, c'est tout aussi... On a tendance à entendre critique comme un mot négatif, mais la critique, ça peut être aussi très, très positif.
Et de toute façon, moi, je crois que même quand elle est négative, ça dépend comment elle est dit, mais une critique négative peut être très constructive, en fait. Je crois, moi, par exemple, quand j'étais plus jeune et que je faisais du théâtre, les critiques que j'ai pu avoir, j'ai plus amélioré mon jeu... sur les retours négatifs que quand on te dit « Ah bah c'est très bien ça ».
Oui, bah, c'est dur d'améliorer quelque chose quand on te dit « C'est bien ». Alors que quand on te dit « Tu ne te tiens pas droit » ou « Tu fais… » Voilà, bien sûr, c'est plus constructif de toute façon quand on parle de négatif, si c'est bien amené. Parce que si on te dit « Ce jeu c'est de la merde », bon courage en tant que développeur pour t'améliorer là-dessus. Mais quand on critique ou quand on parle d'un jeu, on parle de ça sous quels angles?
Qu'est-ce qu'on regarde donc pour critiquer un jeu et mettre un jugement sur un livre? Vous allez regarder le style, la narration, dans un film, voilà, vous regarderez les angles de caméra, le jeu des acteurs. Mais dans un jeu, moi je crois qu'il y a des choses fondamentales qui sont le gameplay, le level design.
Oui.
Et j'irai même plus loin avec le gameplay, c'est-à-dire les boucles de gameplay. Et après... pour moi, vient l'histoire, la narration. Bon, je pense qu'on va un peu plus rentrer dans ce sujet.
Les graphismes aussi, tu peux les juger tout de suite parce que tu le vois, voilà, t'as pas de surprise, tu sais si c'est beau ou si c'est pas beau ou si ça te convient dans le style visuel ou
je
pas.
Je dirais plus, voilà, si ça te convient parce que sont des graphiques beaux.
Alors,
des graphiques,
oui, bien sûr, oui. Beaux, là, on pourrait, Minecraft, voilà, c'est beau alors que pour la plupart
émission,
du monde, bien sûr.
La part du beau dans le graphisme, elle est ultra subjective.
Oui.
Et donc ce que je voulais dire peut-être pour préciser sur les boucles de gameplay, qu'est-ce qu'est une boucle de gameplay? Bah donc le gameplay, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est. La boucle de gameplay, je vais prendre un exemple tout bête dans Zelda Tears of the Kingdom. Vous avez la boucle simple, hein, qui est de vous balader. Donc vous avez le gameplay, hein, faire des trucs. La boucle,
le gameplay, faire des trucs.
Non mais c'est vrai, tu peux chasser, récolter des objets, les amalgamer ensemble. Et pour faire quoi? Bah d'abord les temples, les shrines posés un peu partout. Ça c'est une des premières boucles de gameplay qui est pensée, hein, au moment de Breath of the Wild pour permettre des sessions de jeu courtes en fait d'une vingtaine, trentaine de minutes.
Voilà. Oui, où tu lances le jeu, tu dis tiens, je vais me faire le prochain truc qui sera le plus proche de chez moi.
Et donc, après, il y a d'autres boucles. Hein, faire certains mini-boss, faire certaines quêtes annexes. Mais dans l'ensemble, ça va être d'aller à un point B, de combattre tel ennemi à tel moment. Vous avez une boucle de gameplay toute simple aussi, qui est celle des tours d'observation, avec chacune qui va... À partir des trois premières, après, il va toujours y avoir un truc, la porte est coincée, faut y accéder par en bas.
Si je devais vulgariser ça, du coup, est-ce que tu considérais que c'est en fait toutes les actions qui sont mises à la disponibilité du joueur pour s'amuser ? Je vais vraiment vulgariser.
Oui, par exemple, on va parler d'Hadès deux minutes. Une fois que tu arrives aux températures, là, au pacte, bon c'est, je dirais, ça c'est la dernière boucle de gameplay qu'on te propose. C'est-à-dire, on te propose à nouveau de remettre des petits ajustements, plus d'ennemis, moins de vitesse, pour pouvoir justement un peu rechanger ton expérience de jeu. Voilà. Donc pour moi, la boucle de gameplay, elle est importante. Pourquoi ? Parce que c'est de ça que je me lasse le plus vite.
Ou c'est ça que tu apprécies le plus rapidement ? Mais, à l'inverse, non ?
Oui, mais c'est oui. Mais les deux sont liés, oui, t'as raison.
En fait, c'est ce qui te touche le plus, du coup. C'est ce que le... On reviendra sur la manière dont on apprécie les jeux et à quelle profondeur et quels éléments nous attirent le plus. Mais en même temps, c'est l'une des choses que tu vois en premier, non ? Qu'est-ce qu'on voit en premier quand on lance un jeu ? Parce que là, on parle de finir les jeux, donc pour les finir, il faut les commencer.
Sur le principe, t'as raison, on voit les graphismes, on a le gameplay, je dirais, initial.
Le pitch de l'histoire, plus ou moins étendu hein, d'ailleurs, parce qu'un pitch, ça peut être dès le début, en fait, il n'y aura rien de plus que ça.
Il faut se rappeler que le jeu vidéo fonctionne beaucoup pour les pitchs d'histoire sur ce qu'on appelle le elevator pitch. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, il est censé pouvoir se raconter en une minute. C'est le temps de l'ascenseur, elevator pitch. Hein, c'est parce que, en gros, les développeurs, c'était une pratique, quoi. Ils pitchaient aux maisons de production le temps du trajet en ascenseur, quoi. Ici, c'était assez rapide et incisif. Bon, ça voulait dire. Et donc, souvent, il faut savoir que le plus gros du budget du jeu est dans les débuts du jeu. C'est aussi souvent pour ça que le début, il y a toujours des grandes scènes et tout ça. Parce que on sait maintenant que c'est là où on va avoir le plus de joueurs sur un jeu.
Est-ce que c'était pas valable plus avant que maintenant ? Est-ce que maintenant, en tête, on pourrait pas avoir beaucoup de contre-exemples de
non,
ça ?
Non, statistiquement, si tu regardes le nombre de jeux finis sur le PSN, Xbox et tout ça, les chiffres ont tendance à diminuer d'année en année.
Non, je te parlais pas pour la complétion, pour le nombre de gens qui ont tendance à finir leur jeu. Ça, je suis d'accord. De toute façon, on a de plus en plus d'offres de jeux. Et du coup, on n'a pas un temps infini. Donc, plus il y a de jeux, moins on finit de jeux. Plus on en teste. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de se dire à quel moment tu considères que tu as commencé un jeu. Parce que si tu télécharges un jeu sur le Game Pass, que tu y joues 10 minutes, est-ce que tu l'as vraiment commencé ou tu as juste fait lancer une partie pour tester justement? Et moi, il y a des jeux où j'ai fait ça, j'ai pas considéré que je les avais commencés. Mais moi, je te parlais de l'exemple de l'Elevator Pitch. Je pense à des jeux comme Baldur's Gate. Il n'y a pas d'Elevator Pitch, ça se passe ailleurs, ça se passe autrement, pas ailleurs forcément, mais ça se passe autrement. Et je pense que l'Elevator Pitch, c'est un exemple qui était très concret dans fin 80, début 90, et il y a de plus en plus de contre-exemples à ça. C'était ça que je voulais dire. Pas tant sur la finir ou non les stats.
Je suis pas sûr de t'avoir suivi, mais...
Baldur's Gate, pour revenir sur cet exemple, parce que c'est celui que je t'ai donné, l'Elevator Pitch, c'est pas ça. Le pitch du jeu, tu peux pas le pitcher en une minute, le jeu.
Si, mais après, c'est pas l'histoire que tu pitches en une minute. C'est, ils vont dire c'est un JRPG avec la possibilité de jouer en coopération, de faire ça se passe dans un univers comme ci, comme ça. Et bam, c'est ça l'Elevator Pitch, en fait. C'est pas forcément raconter l'histoire en une minute, c'est donner le plus grand
éventail. Ouais, c'est le pitch marketing, en fait, c'est pas le pitch histoire.
C'est comment faire que ton producteur achète ton jeu que tu veux développer.
Ouais, ok. En fait,
c'est ça qu'on appelle un elevator pitch. Donc, et c'est pour ça hein, quand même qu'on met plus de moyens, comme on sait qu'il y a plus de gens qui commencent des jeux qui ne les finissent, on met toujours plus de moyens sur le début. Donc,
au début, ouais, pour appâter le chaland.
Au début, forcément, on regarde le gameplay. Et surtout, un truc qui est important aussi, c'est au-delà des graphismes et tout ça, c'est le level design. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la pire chose en level design pour moi, c'est quand t'as l'impression qu'on te donne une immensité, alors qu'en fait, t'es dans un couloir.
Ouais.
Je préfère de loin être dans un couloir, et je comprends tout à fait hein, les chemins d'étranglement. Par exemple, Elden Ring fait ça énormément quand on passe d'un décor à un autre. Je pense à moi, un des seuls que j'ai vu, quand tu quittes Voile Orage et que tu arrives justement sur la nouvelle contrée, là, Lyurna, ou si je dis pas de bêtises.
Oui.
Et bah justement, quand tu quittes le château, tu es dans un espèce de couloir d'étranglement et d'un coup, s'ouvre une gigantesque vue devant toi et tu vois ton nouveau terrain de jeu. Donc ça, je comprends. Alors dans Elden Ring, hein, c'est un couloir de...
De 2 mètres, oui, non,
voilà, mais
bien sûr.
Ce que je veux dire, je comprends et j'en veux pas au jeu quand au début du jeu, il me place dans un couloir. Par exemple, Zelda Tears of the Kingdom, au début du jeu, l'île céleste du prélude, c'est un couloir dans le sens où il y a quand même un sens dans lequel on l'a fait. Il y a une espèce d'indication et on va progressivement. Voilà. On voit bien qu'on est quand même guidé. Chose qu'on est un peu moins en bas. Alors, même si on est quand même guidé, parce qu'on nous conseille d'aller à tel endroit, de faire ci,
ouais,
ça.
Plus que dans le premier. Mais oui.
On en avait parlé. Il y a quand même des gens, au début du jeu, quand il est sorti, qui sont passés à côté de la paravoile, par exemple.
Ouais.
Moi, pour avoir joué à Breath of the Wild, ça me paraissait fou parce que tant que je l'avais pas, je me disais, il me manque un truc pour commencer le jeu. Tu vois, pour moi, bêtement, Tears of the Kingdom a commencé dans ma tête quand j'ai eu la paravoile.
Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, tu dis, il y a des îles célestes, j'ai envie de planer, quoi.
Oui.
Donc, le lien vite fait, surtout si tu as joué à Breath of the Wild, si tu l'as pas fait, t'as pas forcément cette réflexion. Je vais revenir vite fait sur les couloirs parce que c'est vrai que le level design, tu peux pas t'en rendre compte au début. Le gameplay, tu peux peut-être pas forcément voir tout ce que le jeu te propose au début. Là, je parle pas de boucle, là, je parle vraiment, enfin, du coup, le gameplay en général. Tu peux peut-être pas voir la profondeur du gameplay. Tu peux voir les graphismes tout de suite et tu sais qu'il y aura pas de pure nouveauté, à moins qu'il y ait des cinématiques belles. Mais généralement, comme tu le dis, le budget, il est dès le début, donc tu as tendance à le voir tout de suite. Le level design, un peu moins. Tu vois, j'ai testé, parce que j'avais jamais fait The Last of Us, parce qu'il est sur l'abonnement de Play. Et ben, j'ai pas du tout aimé le jeu, quoi. Genre, vraiment, c'est un couloir perpétuel. Et c'est exactement ce que tu dis. On te présente des zones où, en fait, tu dis, il y a moyen de faire des trucs. Et non, non, Last of Us, ce n'est qu'un couloir. Tout le monde va me détester, hein. Mais moi, j'ai vraiment pas aimé le jeu, quoi. Tu te mets accroupi, les compagnons qui t'accompagnent courent devant toi, courent à côté des zombies, et tu, en plus de ça, t'es dans un couloir. Donc, tu es voué à avancer dans un couloir, et les gens qui te suivent te courent à côté. Enfin, il y a un côté qui t'enlève de l'immersion qui est un peu bizarre. Mais je pense que plus on fait de jeux, on reviendra là-dessus, plus on fait de jeux, plus on devient critique, c'est plus on regarde de films, plus on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, et plus aussi on a un sens de l'observation où on sait que on le voit venir en fait, il y a des choses qu'on voit venir, que ce soit le level design, le gameplay, il y a des choses qu'on voit venir.
En parlant de choses qu'on voit venir, est-ce que c'est pas le moment d'écouter quelque chose qu'on verrait venir par nos oreilles? En termes musical.
Ta transition avait très très bien commencé, mais tu t'es empêtré un peu, si tu suis dans l'honnêteté. Oui, très bien. Et bon, on écoute Saleka avec Kid Cudi, Divine, une chanson qui a une semaine.
88.3, Radio Campus, double saut, à tout de suite.
À tout de suite.
Shines in our favor. I wanna see.
De retour sur Radio Campus 88.3, vous écoutez toujours Double Saut, je ne sais pas à quel moment ma phrase a commencé. J'ai une question à te poser, pour faire une transition avec ce qu'on disait un peu plus tôt.
Je t'écoute.
On va parler de forme et de fond. Pour préciser, on va dire que le fond, c'est généralement du coup l'histoire et le endgame un peu. Et la forme, ça va plus être le gameplay et le level design, ce qui est raconté par l'action et par l'environnement sans avoir littéralement à te raconter quelque chose. Donc ma question c'est, t'es plus un formaliste ou un fondamentaliste ?
Alors je vais faire une réponse longue. Petit, j'ai été pourchassé par cette morale de La Fontaine qui dit que c'est le fond qui manque le moins à la forme. Et moi j'étais convaincu que j'étais quelqu'un du fond. Le plus important pour moi c'était le fond, c'était ce qu'il y avait au fond des choses. Et c'est vrai, il y a une exception qui l'emporte sur tout, c'est quand le fond est politique. Vraiment, je vais avoir tendance à moins m'attacher à une forme quand le fond est politique, mais il faut que ça soit bien politique. Mais par contre sinon, voilà, je le dis, je l'annonce haut et fort, 88.3 Radio Campus, Amir, Team Cœur et formaliste. Et ça va peut-être un peu à l'encontre de la Team Cœur, mais en fait je suis un amoureux de la forme, de comment on raconte quelque chose, la manière dont on le fait. Alors je pourrais vous donner plein d'exemples, des exemples dans le jeu vidéo ou dans le cinéma. J'avais une discussion avec un ami la dernière fois qui me demandait mon western préféré et je lui disais c'est forcément je pense un Sergio Leone, à savoir est-ce que c'est pour quelques dollars de plus ou est-ce que c'est il était une fois dans l'Ouest, je ne savais pas trop. Il m'a dit t'es vraiment un sale formaliste quoi. Et oui. Je suis un formaliste, j'aime la manière dont on me raconte les choses plus que la chose qu'on me raconte.
T'as un exemple à me donner quand même en termes de vidéoludisme ?
En termes de vidéoludisme, je vais prendre un jeu qu'on aime tous les deux, Outer Wilds, qui est pour moi un jeu très très formel dans le sens où on décide de nous raconter une histoire à travers une quête explorative. Cette histoire, on la découvre en faisant des choses par le gameplay et on l'assemble nous-mêmes dans le sens qu'on veut. On prend chaque petit bout, on fait des super tentatives. Moi, je me rappelle quand on a essayé d'atteindre la comète ou
On a réussi, on s'est suivre le vaisseau qui...
On fait des hypothèses et en fait... Du coup, le jeu se joue vraiment de cette forme de l'histoire, puisqu'elle est complètement... C'est un bout de verre, en fait. C'est une vitre cassée, quoi, et éparpillée au milieu de ce monde, en plus, qui est, en termes de level design, brillant, quoi. Mm-hmm. Chaque planète a une physique à elle. Enfin, c'est brillant comme jeu. Et un autre jeu, c'est Stanley Parable, et on en parlait en préparant l'émission, où, en fait, effectivement, le fond de Stanley est superbe, parce que ce que dit le narrateur, c'est génial, mais la forme dont c'est amené, et je pense notamment au fait que ces illusions de choix permanentes, ou au moment où le jeu se casse, ou quand tu te retrouves dans d'autres jeux, je trouve que formellement, la manière dont le sujet joueur-jeu est traité par Stanley, moi, ça fait vraiment partie des jeux que j'adore. Et après, en termes de forme pure, GTA, je veux dire, au fond du fond, je suis contre ce que GTA raconte, peut-être.
Moi, c'est une satire,
mais
ça se moque.
En fait, je m'en fiche, j'adore la forme. Quand j'étais gamin, quand je suis tombé amoureux de cette forme, du monde ouvert, libre, de prendre des voitures, d'aller dans la flotte, d'aller dans la montagne.
La forme est tellement bien qu'on fait du RP sur ce jeu, quoi. Donc.
Tu vois, j'étais assis, je suis impatient de me lancer dans le RP.
Bien sûr. Ça, moi, en plus, je suis assez d'accord, parce que ça libère ton imaginaire, parce que au final, c'est toi un peu le créateur de ton histoire, un peu comme dans ta vie. Waouh. Je veux juste revenir sur Stanley, parce qu'en fait, Stanley, avant qu'on en parle hier et que tu me dises, mais en fait, le fond, c'est le narrateur et c'est la narration. Moi, j'étais quand même, je mettais dans le fond la philosophie qui se dégage derrière en tant que joueur. Que à travers la forme du jeu, ce que ça te procure philosophiquement en tant que joueur, dans les réflexions, en fait, dans justement de ce triangle jeu-joueur-développeur que Stanley est, d'après moi, le seul à proposer. Je mettais ça dans le fond, en fait. Ce que ça me fait ressentir, tu vois, ce que ça me fait réfléchir.
Pour moi, c'est ce que fait l'art. C'est-à-dire qu'en gros, t'es soumis à un objet artistique qui a un fond et une forme, et ta rencontre entre cet objet, sa fond, son forme, font la critique, la philosophie que tu développes autour de cette œuvre, tu vois, en fait.
Oui, okay.
Parce que ça t'appartient, parce qu'on va, on va chacun comprendre des choses différentes en regardant ou en faisant la même chose.
Ouais, oui.
Et donc, toi, t'es plus formaliste ou fondamentaliste, Vincent ? Et attention, je parle pas de fondamentalisme religieux.
Bien sûr.
Moi, je serais plus formaliste religieux.
Bien sûr. Bah, c'est tout pareil. Tinker, formaliste. Ça dépend, en fait. J'ai plein d'exemples où c'est vrai que le fond, on en parlait. En fait, on parle de critiquer des jeux sans les avoir finis. Et il y a des exemples tout de suite où ma réponse sera non. Par exemple, FF7, Final Fantasy 7 ou Baldur's Gate, tu vois, FF7, bon, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien le JRPG, le tour par tour, la stratégie. Là, le remake, j'aime un peu moins, mais ça me dérange pas, parce que je connais le fond et le fond, je l'aime, j'aime ce que ça raconte. Baldur's Gate, tu as très vite compris ce que tu peux faire, alors pas la profondeur parce que tu vas débloquer des choses un peu plus tard, mais la manière dont tu le feras et la manière dont tu vas gérer tes actions, ça tu le comprends très vite. Le gameplay, voilà, tu le sais. C'est plus ce que ça raconte et la manière dont ça le raconte et le fait que toi tu aies un impact dessus. Il y a aussi des jeux de gestion où je reprends une phrase que tu as dit hier, je te pique ta phrase. Tu pars du principe qu'à la fin d'un jeu tu gagnes. Et moi, instantanément, quand tu m'as sorti ça, je me suis dit, ok, je vais penser à Frostpunk et je vais penser à This War of Mine. À la fin du jeu, est-ce que tu gagnes vraiment en fonction de la manière dont tu as joué ?
Non, mais parce que vraiment, là tu prends, et je te le disais hier, je pense, en en parlant comme ça, qu'il y a une différence entre le but d'un jeu collectif et le but d'un jeu individuel. C'est-à-dire, quand je dis un jeu collectif, c'est un jeu où on doit faire gagner, où on doit gérer, en tout cas, une multitude de gens, ou ce genre de choses, parce que ce que le jeu veut nous faire ressentir est différent. Souvent, il veut nous montrer. On n'est pas dans la position du héros quand on est plusieurs. C'est d'ailleurs un peu ce que je reproche au personnage du héros. Peut-être qu'un jour on aura le temps de l'évoquer, mais.
Non, mais dans les Souls-like, dans Elden Ring, oui, non plus en fait.
T'es
une... Encore on ne sait pas ce que t'es d'ailleurs.
Faut pas traiter ma phrase comme un absolu général.
Je le fais jamais, t'inquiète pas.
Mais par contre, c'est vrai que. Ouais, au moins 8 fois sur 10, quand je commence un jeu. Je sais d'avance que si je fais tout bien, à la fin, le personnage que je joue, il gagne. Il bat l'antagoniste. Enfin, je veux dire, c'est la classique jambon fromage des films. Moi, j'ai un gros problème avec la happy end à cause de ça, en fait, parce que les gens sont toujours tendance à dire pas de spoil. Bah, je veux bien, enfin, dans les œuvres occidentales modernes, sans vouloir te spoiler, les gentils gagnent à la fin.
Et ouais, ne fois, spoil, mais Harry Potter s'en sort. Hein.
Quand les gentils sont américains. Donc, moi, il y a ça, si tu veux, l'histoire, je m'en fiche toujours un peu plus parce que, en fait, je trouve que, surtout en ce début de 21e siècle, je crois sincèrement.
Tout a déjà été raconté.
Non, je suis pas sûr de ça parce que je pense que non, je pense qu'on a encore plein d'idées, plein de choses à raconter. Par contre, je crois sincèrement qu'il y a une espèce de facilité. Des grands studios à raconter des histoires qui sont d'un bateau et d'un usuel et qui en fait reprennent en fait les mêmes clichés du cinéma d'action depuis 40 ans. Parce que je crois que dans le jeu vidéo indé, on n'a pas ce problème en fait. On essaie de raconter des choses intéressantes, différentes. Et tu vois, quand tu vois, je prends un jeu qui n'est pas forcément indé d'ailleurs, mais It Takes Two, qui est fait par un EA, hein, donc plutôt un gros studio.
Evil Studio.
N'empêche, combien de jeux coopératifs évoquent la question du divorce ? Alors, on peut trouver que c'est de manière pataude, que c'est pas. Voilà, mais encore une fois, on ne demande pas à un jeu vidéo la finesse d'un roman. Par contre, tu vois, tout n'est pas raconté dans le jeu vidéo, en fait. Alors, peut-être que toutes les histoires de flingues ont été racontées.
Oui, c'est clair.
Mais par contre, je crois qu'il y a plein de choses. Tu vois, il y a un jeu indé où tu tiens un espèce de coffee shop. Et où tu écoutes en fait les gens venir te narrer leurs petits problèmes et tu résous un peu leur vie tout en leur servant des lattés. Moi je sais que ça m'intéresse pas, mais tu vois, il y a un éventail de choses à raconter en fait encore. Le problème c'est pas les choses à raconter, le problème c'est la volonté d'être original. Et ça, c'est un truc que les studios ont peur. Et je pense que heureusement qu'il y a les indés dans le jeu.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'ai plus de réticence au cinéma, moi personnellement, ces dernières années. Parce qu'on voit bien que la volonté d'être original, c'est pas ce qui fait vendre.
Bah non, parce que ça fait encore plus peur. Parce que là on parle d'investissement parfois le double du développement d'un jeu. Et si t'as pas retour sur investissement, bah en fait, y a personne qui te produit. Donc l'originalité, ça fait peur. L'originalité, ça fait peur au marketing.
Oui. Donc c'est pour ça, tu vois, que je m'attache souvent moins au fond qu'à la forme, parce que je crois que avec l'expérience, j'ai été plus souvent déçu du fond. Et alors, je peux peut-être faire encore un truc, encore un parallèle, encore plus grand écart. Hein. Je vais faire un Jean-Claude Van Damme sur deux camions.
Waouh.
Waouh.
C'est impressionnant. Il est en train de le faire. Waouh.
Je vais prendre l'exemple du catch. Et en fait, le catch, c'est pareil. Fondamentalement, c'est pas très intéressant ce que ça raconte. Hein. C'est deux hommes ou deux femmes, voilà, qui veulent se battre pour être le meilleur ou parce que l'autre l'a blessé ou n'importe quoi. Et ce qui compte, c'est vraiment la manière dont ils vont le raconter, c'est la forme. Et donc, vraiment, c'est quelque chose. C'est une lubie. Et d'ailleurs, tu le sais en musique. Hein, j'écoute des choses, genre, je pense précises, qui parfois se ressemblent un peu, mais.
Mais oui, oui. Moi, je trouve que ça dépend. Le jeu vidéo, ça propose un panel tellement large. Je trouve, moi, dans mon analyse, que ça propose un panel artistique plus large qu'un film, par exemple. Parce que vu qu'il y a le joueur et il y a l'unicité des joueurs et des gens, il y a un côté plus large dans ce qui peut être proposé. Et je trouve que, alors, j'aime le fond, mais j'aime aussi la forme. Et là, tu vois, si j'ai eu pas mal de j'ai pris Hades 2 dès qu'il est sorti direct, tu parlais d'Hades. Hades 2, j'y ai joué, j'ai fait quelques runs, je m'en suis pas trop mal sorti. Mais je sais pas, il s'est passé un truc, comme il s'est peut-être passé avec Tears of the Kingdom, où je me suis dit, mais en fait, je connais déjà cette forme. Et au final, je connais aussi ce fond. Mais je pense que c'est vraiment la forme où je me suis dit, mais je l'ai déjà fait. Et même si c'est apporté de manière un peu différente, alors bien sûr, c'est un roguelike, donc ça reste les mêmes idées derrière le roguelike, pas forcément le même gameplay, mais je sais pas, j'ai été tellement hypé par Hades, et là Hades 2 qui est tout aussi bien, tout aussi beau, j'ai un peu plus de mal, et donc je suis un peu dans les deux, j'ai un peu le cul entre deux chaises, où j'aime le format, j'aime le fond, j'arrive à reconnaître les différents types de jeux, et les deux peuvent me stopper, quoi, ou les deux peuvent me plaire.
Mais d'ailleurs, puis on va s'arrêter là, mais en fait, on n'y a pas réfléchi. Mais si tu regardes, le jeu vidéo, il est avant tout formaliste, parce que les GTA-like, les Souls-like, en fait, souvent, les roguelike, là, ce que tu disais, en fait, au jeu vidéo, on catégorise beaucoup plus par la forme que par l'essence de la chose.
Complètement, ouais.
Je vous propose d'écouter de la musique.
Si, señor.
Si, si. Nous allons écouter, je ne ferai pas d'accent.
C'est à tout de vrai, c'est marrant.
Non.
Et il a fait le reste de l'émission comme ça.
Je voulais m'excuser auprès de nos comparses espagnols et d'Amérique latine. Et d'ailleurs, on embrasse tous nos compères vénézuéliens. On pense à vous.
Si, courage.
Et alors, on va écouter les Velvets avec I Got Find Somebody. Et oui, mesdames et messieurs, si vous n'avez personne, il faut vous trouver quelqu'un parce que l'amour, c'est rigolo et c'est sympa. 88.3 Radio Campus, on vous embrasse.
Bisous.
Bisous, à tout de suite. You got the- 88.3 et ses doubles sauts. Et oui, mesdames et messieurs, les 60s, ça défonce toujours autant.
Il est contenu avec l'accent espagnol, il ne m'arrête pas. D'accord, j'y arrête.
Très bien. Alors, continuons. Sérieusement, que dire alors sur ce Zelda Tears of the Kingdom,
oui, parce que
d'un jeu qu'on n'a pas fini, puisque voilà, c'est le titre de l'émission.
Pourquoi cette émission? Parce que Amir et moi-même, on avait hâte de jouer à Teoteka. Vraiment, on était là, ouais, Breath of the Wild, trop super le jeu, j'ai hâte de voir la suite. On joue à la suite et on a quand même joué 50 heures chacun.
80 pour ma part.
Ah oui, moi je me suis arrêté à 55 et déjà j'avais pas l'impression d'avoir joué 55 heures parce que bah, en fait il y a tellement de trucs à faire que tu fais, oh, ben non, t'as déjà joué 55 heures. Mais voilà, on ne l'a pas fini. On ne l'a pas fini, donc que dire de ce TOTK?
Alors moi je vais, forcément ça va être dual parce que il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Je vais tout de suite dire, c'est-à-dire que c'est l'amélioration encore plus du moteur physique, de pousser encore plus loin la question de l'amalgame. Alors ça, j'ai préféré les pouvoirs dans TOTK que dans Breath of the Wild, par exemple. Je les ai trouvés plus ingénieux. Mais en fait, à chaque fois, je me disais, waouh, si t'avais eu ça dans Breath of the Wild, quoi. Y a des choses que j'ai adorées, c'est la liberté, toujours. Je veux dire, là, ils ont quand même passé des caps sur lesquels je pense pas qu'ils pourront revenir s'ils font des open world. Je vais prendre un exemple sans trop spoil. Il y a un temple du feu hein, chez les Gorons. Comme j'ai envie de dire dans tous les Zelda 3D, on va chez les Gorons. Et j'ai pu vraiment faire le temple sans faire l'énigme, quoi. En escaladant, en sautant, en planant. Et moi, j'ai adoré. Parce que j'avais vraiment l'impression là, d'être comme dans Breath of the Wild. C'est-à-dire de réfléchir à mes déplacements et tout ça. Et par contre, j'ai trouvé le jeu bavard. Beaucoup plus bavard.
Alors beaucoup trop bavard.
Au début, c'est pas une mauvaise chose, et puis petit à petit, c'est vrai que. En fait, il n'y a pas ce côté. Personnellement, hein, je me déplaçais plus avec les déplacements rapides. Il y a moins ce côté exploration du monde et tout. Et avant que le jeu sorte, toi, tu me disais beaucoup, oui, mais ça peut être un peu un 1.5, ça va être le même espace. Et moi, je te disais non.
Je te disais, ça va. En fait, t'auras pas l'effet découverte, t'auras l'effet potentiel, ni exploration, t'auras l'effet redécouverte et nostalgie de te regarder à un endroit et de te dire, bah, j'y ai déjà été, qu'est-ce qui a un peu changé. Mais je trouve que ça change déjà dans l'appréciation de l'aventure. Parce qu'en fait, c'est un peu comme. Voilà, elle va être dure ma comparaison. Si tu vas en vacances quelque part, t'as adoré ces vacances, tu y retournes 10 ans plus tard. Bah en fait, tu peux faire qu'une comparaison avec il y a 10 ans. Tu fais pas waouh, je connaissais pas quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas un nouveau pays, tu ne découvres pas une nouvelle culture.
Oui, mais comme là en plus le jeu est basé sur l'exploration, bon, moi ça m'a. Au final, ça m'a plus. Alors je peux pas dire déçu, c'est pas un jeu décevant. Il est vraiment. C'est un super. Bah, j'y ai passé 80 heures. Quoi.
Ça t'a moins séduit.
Mais oui, mais en fait, Breath of the Wild, j'y ai passé 80 heures et je l'ai fini.
Tu l'as fini quand, 80 heures?
80 heures, 100 heures, tu vois, mais ouais, 80 heures, j'étais déjà bien à la fin du jeu, quoi.
Ouais, mais c'est qu'il est trop fourni, il y a trop de choses, et je te l'avais dit, pour un joueur en plus qui n'a pas l'habitude, je trouve qu'il y a trop de trucs.
Et puis tu disais, plus on joue, plus on devient exigeant, moi je vais dire un truc tout bête, les abîmes, les abysses d'ailleurs, je sais pas comment les abysses.
Le souterrain.
Voilà, les profondeurs.
Ouais, je pense que c'est ça en plus, c'est les profondeurs.
Très simplement, ouais, c'est cool, mais en fait, si t'as eu le malheur 8 mois avant de descendre dans la Siofra dans Elden Ring,
t'es foutu.
Bah, t'es foutu parce qu'en fait, tu te dis, c'est un peu une Sofria Wish là.
Ouais, encore t'es gentil. Hein.
Ce que me propose
c'est une grotte. C'est gris et rose et ouais, noir, quoi.
J'ai pas accroché spécialement aux îles célestes. Donc voilà, par contre, j'ai vraiment les pouvoirs. C'est-à-dire que, en fait, en jouant à TOTK, j'arrêtais pas de me dire vivement le prochain dans une map que je connais pas. En fait. Parce que, vraiment, je vais prendre un exemple tout bête. Le pouvoir peut-être auquel on pense le moins, le passe-muraille.
C'est celui quand tu vas dans le sol pour remonter. Celui que j'oubliais le plus.
Bah oui, mais en fait, il est tellement bien pour l'exploration. Il est tellement pratique et il permet de faire tellement de choses. Et en fait, vraiment, Je veux dire, c'est presque un jeu où on n'aurait même pas besoin de l'histoire. Des fois, on pourrait y jouer comme Minecraft, quoi. C'est-à-dire faire sa ville, faire ses trucs.
Alors, regarde les mecs qui ont fait ce qui a explosé le plus. Et moi, quand j'y ai joué, j'avais des idées de contenu à la con. Ce qui a fait le plus parler de TOTK, c'est la construction de véhicules. Moi, le seul truc de vidéo que j'ai vu tourner en boucle, c'est des véhicules, des véhicules, des véhicules. Où, en fait, l'attrait le principal du jeu, bah, c'est sa construction, comme tu le dis, c'est de jouer à sa sauce et pas de jouer selon le jeu, quoi.
Et tu vois, très clairement, moi, Zelda, l'histoire, je m'en fiche, en fait. J'en ai rien à faire, quoi. Je suis désolé, hein. C'est mon côté pas geek, ça, je pense.
Moi, je suis pas forcément. Je suis pas sûr que ce soit un côté, que ce soit en rapport avec le geek ou le non geek. Moi, je trouve qu'il y avait des choses intéressantes. Moi, j'allais dire sans spoil, mais je peux pas vraiment spoiler grand chose parce que j'ai pas vu grand chose de l'histoire. J'ai juste à peu près compris.
Moi, je peux tout spoiler.
Je sais en fait. Je sais que je serais pas vraiment surpris, mais j'ai quand même envie de savoir par curiosité.
Moi, je suis presque sûr qu'à la fin, Link et Zelda gagnent.
Moi, s'ils se font pas de petits bisous, ça ne m'intéresse plus. Moi, faut le savoir. Non mais j'ai une vraie question à te poser à ce sujet. Du coup, est-ce que là avec tes 80 heures de j'ai pas fini de jeu, j'ai gratté un peu la surface, voilà, est-ce que tu te vois y rejouer? Vois le finir?
Non. Et toi?
Ouais, en fait je me le garde toujours sous le coude. Est-ce que je me mens pas un peu et je suis pas dans le déni? Parce qu'en fait d'ici là il y aura d'autres jeux qui seront sortis où je serai probablement plus hypé. Et c'est ce qu'on disait, il y a beaucoup plus d'offres, moins de temps, donc tu fais un choix. Là par exemple il y a DLC d'Elden Ring qui est ressorti, enfin qui est sorti. Du coup je me suis dit je vais me relancer une run d'Elden Ring. Et pendant tout ce temps où j'ai commencé à jouer à Elden Ring, je me dis mais en fait j'aurais pu très bien jouer à Zelda, mais je l'ai pas fait. Donc je sais pas si je te réponds oui, mais je sais pas si je me mens à moi-même en disant ça.
Si tu réfléchis bien, en plus, alors t'as essayé plein d'autres jeux, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais les jeux qui ressortent le plus, je veux dire sur ton année là, il y a eu Baldur.
Bien Baldur, ouais.
Elden.
Bah surtout Baldur parce que là cette année il y a pas eu d'Elden, mais.
Et Binding of Isaac. Je te vois quand même, que tu le veuilles ou non. Hein. Moi sur l'année. Je t'ai souvent vu jouer à ce jeu.
Ouais, oui.
Bah, plus qu'à d'autres.
Isaac, c'est un côté un peu particulier parce que le jeu, il a tellement de trucs à faire et que c'est un roguelike que tu dis, bah, t'as tout ce côté, je lance une game, tu vois, et j'avance petit à petit. Je rappelle quand même que Binding of Isaac, j'avais dit que j'y jouerais jamais parce que le jeu est trop gros et puis bah, d'un coup, je me suis dit, vas-y, fuck it, j'ai quand même envie d'y jouer. Oui, c'est vrai.
Donc, ce que je veux dire, tu as une quantité de jeux qui sort, mais en fait, moi, je crois qu'on vit vraiment une époque. On trouve des jeux qui nous ancrent, quoi, qui nous plaisent, et on a plus tendance à passer de temps au sein d'eux qu'à explorer une multitude.
D'autres jeux. Bah, je regarde quand même, je garde un œil sur les sorties Steam, où j'ai les deux abonnements, parce que why the fuck not, sur le Game Pass et sur le PSN, je sais pas comment s'appelle l'abonnement de PlayStation. Mais je regarde hein, très régulièrement ce qui sort. Il y a des trucs où je me dis, bon, peut-être que si j'avais 15 ans de moins, je l'aurais téléchargé ce jeu. Mais sinon, il y a des trucs que j'ai téléchargé, je joue 2 heures et je me dis, moi ça me plaît pas quoi. Palworld par exemple. Palworld, tu vois, peut-on parler d'un jeu qu'on n'a pas fini? Palworld, j'y joue 2 heures, je peux vous dire que c'est pas terrible. Et je peux vous le dire, on pourrait prendre une heure d'émission pour que je vous explique pourquoi Palworld c'est pas terrible. Je l'ai dit juste avant, si tu mets tout dans ton jeu, si tu fais que ton jeu est un fourre-tout, tu feras peut-être un jeu qui se vend, mais tu feras pas un bon jeu. Et moi, les jeux qui se vendent, j'en ai un peu plus rien à faire, quoi.
Non, mais ça, je suis d'accord. Après, je sais pas si... Bon, je veux pas défendre les créateurs de Palworld. Moi, j'ai pas forcément accroché plus que ça, mais je pense qu'ils ont voulu tenter quelque chose.
L'argent, ouais. Ils ont voulu tenter l'argent. On va te mettre un jeu Pokémon dans un jeu de survie, dans un jeu de construction.
Non, mais c'était pas bête d'utiliser... je veux dire... Les Pocket Monsters, on va dire. En tout cas, le fait d'avoir des familiers...
Ouais, en tant qu'esclave, tu veux dire, de fabrication, de machin.
Oui, c'est pas...
Ça a rien révolutionné, Conan le barbare, il le faisait avec des esclaves, enfin Conan Exile, il le faisait, il y a d'autres jeux qui le font, il a vraiment rien révolutionné, il a juste pris tout ce qui se faisait plus ou moins ces 5 dernières années, et on a fait un jeu.
Moi, ce que je le vois plus comme une tentative d'essayer de faire autre chose de la formule Pokémon plutôt que de faire vraiment un immense fourre-tout avec tout ce qui marche. Mais je peux, voilà, je vais pas défendre spécialement jeu plus que ça.
Non, Temtem, mais... t'avais bien aimé. C'est... Bah, ouais, non, ça révolutionnait rien, Temtem.
Temtem, j'avais bien aimé. C'est juste que c'est un Pokémon, quoi, en fait. Le problème, c'est qu'il y a, à part Game Freak, personne ne vient... dépoussiérer cette formule, en fait. Et c'est dommage, parce que, encore une fois, en tant que formaliste, voilà, moi, j'aime bien me monter une équipe de trucs élémentaires, on va dire, et les faire combattre. Que ça soit des Pokémon, ou des nanas machin, ou des... Je m'en fiche, en fait. C'est juste que j'aime bien cette idée de se créer une équipe, de la gérer, de faire des combos et tout. Et personne, à part... Et c'est quand même fou. Je veux dire, quand on sait que c'est la franchise qui rapporte le plus... termes de jeux vidéo, bref, on s'éloigne du sujet.
Pas vraiment, parce qu'on parle, là, moi c'est des jeux que j'ai pas du tout finis, et que je critique, donc on est d'une certaine manière en plein dedans. Je peux t'en sortir un autre... Là, on s'éloigne du fait qu'on parlait de Zelda. Est-ce qu'on peut critiquer Zelda alors qu'on l'a à peine... Moi, est-ce que j'y ai à peine joué? Ouais, parce que, comme tu dis, alors...
Je considère pas que 50 heures, c'est à peine joué.
Oui, mais c'est ça qui est malheureux. Si, parce que je n'ai fait qu'un temple sur les quatre. J'ai rien vu de l'histoire. Parce que j'ai fait beaucoup de... Jean Gérard a fait tomber sa poutre. Est-ce que tu peux l'aider à tenir sa poutre? Ah, super. J'en ai fait, ça, hein. T'inquiète, hein.
Oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Après, c'est pas grave. T'as vu ce que le jeu avait à t'offrir.
Oui. Et en fait, c'est ça que je disais au début de l'émission. Il y a une ligne, je pense, vraiment entre... J'ai lancé le jeu pour le découvrir et pour le tester. Et en fait, un peu comme quand tu télécharges un jeu et que le jeu te dit « à partir de maintenant, tu peux au moins faire le premier chapitre et continuer ton téléchargement », là, tu atteins une ligne où, à partir de cette ligne-là, tu considères que tu n'es plus dans la découverte et dans le test et que là, tu as quand même suffisamment joué, suffisamment découvert ce que le jeu pouvait te proposer pour pouvoir commencer déjà à le critiquer. C'est ça que je veux dire. Et alors, tu ne peux pas critiquer du fond. Imaginons, je repars sur The Sword of Mine ou Frostpunk. Si tu t'arrêtes en plein jeu, en plein cours, et tu dis « Ok, je joue plus, j'ai compris ce qu'ils pouvaient m'offrir en termes de gameplay, j'ai vu le graphisme, bon bah Frostpunk, il n'y a pas de level design, un petit peu, mais tu ne pourras pas critiquer le fond, parce que tu ne sais pas ce qu'à la fin, si tu avais continué ta run, ça aurait pu faire chez toi, de te dire bah, « En fait, j'ai gagné, entre guillemets, mais je suis quand même devenu le roi des dictateurs, et mes choix ont été vraiment un peu douteux. » quoi. Ça, tu ne peux pas le critiquer, tu pourras critiquer tout le reste, la manière dont le jeu de gestion fonctionne, etc. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais il y a une ligne pour moi. Donc Zelda, oui, j'ai passé cette ligne où je peux critiquer, je suis plus dans le test. Mais je considère quand même que parmi tout ce que le jeu propose, j'ai pas fait grand chose. Et j'ai joué 50 heures. Et ça en dit long quand même.
Ouais, moi, pour moi, ça c'est un problème du jeu, pas de toi. Hein.
Ah bah bien sûr, mais je le voyais pas comme si j'avais un problème. Hein.
Moi, je pointe le jeu du doigt.
Je suis d'accord.
50 heures, ou alors... On a tous le droit à 6 semaines de congé en plus par an pour jouer. Ouais. Non, mais j'aurais moins de soucis si on se disait bah, vous avez une Play, une Xbox et une Switch. Bon, bah, vous avez atteint le quota. Vous avez le droit à vos 6 semaines. Allez geeker. Bah, pas de soucis.
Merci, madame. Dans 6 semaines.
Est-ce que ce n'est pas l'heure, puisque nous sommes à la radio et que les gens, j'imagine, dans leur voiture, ont soudain envie de faire un coup de frein à main dans son rond-point?
Non, ne faites pas
pour
ça.
Pour s'arrêter, faites et attention. Danser au milieu du rond-point et se tenir la main, car nous sommes dans un moment d'unité.
Alors, garez-vous avant de faire ça. Vous pouvez danser main dans la main
vous
avec n'importe qui.
Attrapez la main si vous êtes sur l'autoroute, baissez votre vitre et chopez la main du mec en face de vous. Vous allez voir, j'adore. Ça fait des moments sympas. C'est ça aussi l'esprit olympique. Qu'allons-nous écouter, Clément?
On écoute Goldfish et Watermat Moonwalk Season, je ne sais plus parler. Pareil, c'est sorti la semaine dernière. Des gros bisous, à tout à l'heure.
À
tout de suite.
Tout à l'heure, 88.3. Ne nous quittez pas.
I remember one day, and coming over on the highway, we left four cars, you know, just to watch the sunrise. You know, I've never seen anything as beautiful as that sunrise.
De retour sur Radio Campus 88.3, vous écoutez toujours de Blosso en compagnie de Clément et Damien. J'espère que vous avez bien dansé main dans la main avec des inconnus et que vous leur avez fait des petits bisous sur les joues parce que la tendresse c'est cool.
Avec leur consentement,
bien sûr.
Entendu, non,
mais alors, bien sûr.
On demande toujours la permission.
Hein. Toujours. Toujours. Vous levez la main, vous dites bonjour, je peux vous faire un petit bisou sur la joue. Oui, merci monsieur. Oh là là, quelle sympathie, quelle tendresse. Donc, peut-on parler des jeux qu'on
n'a
pas
finis ?
Peut-on
les pieds ?
Peut-on les pieds ? Petit peut-on, ouais. Peut-on parler des jeux qu'on n'a pas finis ? Moi, j'ai commencé à dire oui et non. Donc, je vais te poser la question. Toi, est-ce que tu considères qu'on peut parler d'un jeu qu'on n'a pas fini ?
Bah, clairement. Bah, de toute façon, sinon, on ne pourrait pas faire cette émission parce que je finis quasiment aucun de mes jeux. Donc,
non, c'est vrai, ça.
Encore heureux qu'on peut parler de jeux qu'on n'a pas fini.
Et déjà, on pourrait... Qu'est-ce que finir un jeu ? Bon, bah, il y a plein.
Non, mais...
On ne parle pas de finir à 100%. On parle de... Voilà, vous,
moi, je vais être catégorique. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Mais je peux me tromper, en plus, parce qu'il y a toujours des gens qui vont me dire « Ah oui, mais attends, quand tu arrives à ce stade... » de tel jeu, l'histoire devient tellement ouf que ça change tout. D'accord. Je considère qu'à un moment donné, je joue à un jeu et quand j'ai le sentiment qu'il n'a plus rien à m'offrir de nouveau que de progresser dans l'histoire, bah, si l'histoire elle est pas totalement folle, bah, j'arrête.
Ou que t'es pas dans une immersion à travers le gameplay,
ouais,
ou
voilà.
Le level design.
Exactement. Ghost of Tsushima, l'histoire était pas tellement folle, hein. C'est une histoire assez classique, mais la montée en puissance du personnage est telle qu'en fait, tu trouves ça cool parce qu'au début, tu galères vraiment un peu à chaque combat, puis petit à petit, tu deviens vraiment un samouraï. Je pense que Ghost of Tsushima, bon, beaucoup de gens l'ont aimé. Si t'as apprécié les films de samouraï de Kurosawa, il y a un petit truc en plus, un
Sam
peu
qui
de Akira Kurosawa, mesdames et messieurs, je ne peux que vous conseiller ce réalisateur qui est un précurseur en matière de cinéma trop oublié de notre génération, nous les trentenaires infâmes qui parlons de Steven Spielberg. Et toi, Pinson, est-ce que tu parles des jeux que t'as pas fini ? Parce que je t'entends souvent dire « Ah, ce nouveau Pokémon, il est trop nul et tu n'y as même pas joué. »
C'est inadmissible, c'est inadmissible. Oui et non, voilà. Allez, bonne soirée. Ciao, je m'en vais, hein. je suis un peu plus loin. Ça dépend du... Je pense, et c'est ce que je disais un peu plus tôt, je trouve que ça dépend vachement du jeu. La plupart du temps, j'aurais tendance à répondre oui. Et en plus, oui, sèchement, tu me connais, je suis un peu écritique et vindicatif. En exemple, il y a un jeu que j'ai noté, tu vois, Deathloop. J'avais hâte d'essayer ce jeu.
Ah oui, moi aussi.
Les développeurs de Dishonored. Et là, tu lances Deathloop. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est une suite de niveaux avec une sorte de hub au milieu. Et tu joues une heure et demie et le jeu, tu lui dis littéralement, va te faire.
Ouais, tu te dis un peu, c'est un peu def loopé, quoi.
Ouais. Waouh ! Non, mais on devrait s'arrêter là-dessus parce que effectivement, c'est complètement def loopé. Voilà, gros red flag sur ce jeu et j'ai joué qu'une heure, quoi. Et je pouvais te déblatérer pendant une demi-heure pourquoi c'était pas bien. Donc oui, après, il y a des jeux... Je t'avais cité Unscript, qui est au demeurant un jeu de cartes assez obscur. Tu te bats contre un homme qui t'a enfermé, qui te fait peur, qui t'a enfermé dans sa petite cabane. T'es presque attaché à la chaise. Il ne t'autorise que de temps en temps à te lever de la chaise parce que c'est une feignasse et il veut que tu ailles lui chercher quelque chose juste à côté de lui. Mais le jeu... Quand tu passes cette barrière, chose que tu n'as pas faite, tu vois, donc à chaque fois qu'on parle d'Unscript, on ne peut pas vraiment parler parce que la moindre information que je te donnerais, ça te spoilerait ce qui se passe après, où il y a une forme d'évolution, que ce soit dans la narration et aussi dans le gameplay. Unscript, donc, même si tu y joues 2 heures, parce que je pense que tu as même joué plus de 2 heures, toi, et tu es encore dans cette phase de la cabane, tu ne peux pas critiquer le jeu.
En fait, je l'ai presque battu et j'ai raté.
C'est marrant de préciser ça, c'est vraiment des précisions de... Bah de joueurs qui ne finissent pas leur jeu, quoi, parce qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, Unscript, c'est un exemple de Undertale, très compliqué à critiquer sans avoir avancé un minimum dans ce que le jeu peut te proposer aussi. Mais voilà, là, je cite deux jeux indés, deux jeux qui proposent d'autres choses.
Ouais, parce que moi, par exemple, Call of.
Ah bah, bien sûr.
J'y ai quasiment jamais joué. Et je trouve ça nul.
Tu peux lui rouler dessus, mais sans avoir à lancer les 5 derniers opus sortis ces 5 dernières années. Tu peux apporter les mêmes critiques, parce qu'en plus, les critiques sont toujours les mêmes. On essaye de te vendre un jeu 70 balles, alors que ça reste qu'un multijoueur qui est moins bien que Counter-Strike.
Ce qu'on pourrait dire, pour essayer d'émettre une forme de conclusion, évidemment, je crois qu'on peut tous, et d'ailleurs on ne se gêne pas, pour parler des œuvres qu'on n'a pas finies, qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas jouées. Déjà parce que quelque chose peut piquer notre curiosité et on va critiquer d'une manière bonne ou mauvaise quelque chose qui va sortir ou qui est sorti parce que le sujet nous touche ou nous touche pas ou on trouve que c'est... Bon, bref, voilà. Mais je crois que quoi qu'on fasse, à moins que la démarche derrière soit, comme on l'a dit et parfois c'est le cas, purement mercantile et malhonnête... Et ça, je crois qu'il est bon de le dire, même quand on n'a pas joué à la chose. Mmh. Je crois qu'il faut quand même, quoi qu'il arrive, on parle d'objets créatifs, on parle d'œuvres d'art. Je crois que quand on est comme nous, le commun des mortels, il ne faut pas s'exprimer en absolu et se dire que toutes les choses sont subjectives et que mon avis sur un jeu que je n'ai pas fini ou ton avis sur un jeu que tu as fini ou à peine effleuré, eh bien, il est ce qu'il est, il est ton avis, il n'engage que ceux qui l'écoutent, que ceux que tu intéresses, et puis tous les avis sont bons à prendre, à part peut-être celui de Donald Trump.
Bien sûr.
Voilà, c'était...
Si je devais rajouter juste un petit truc, en fait, c'est que finir le jeu, donc bon, je parle pas de 100%, etc., je te parle de finir le jeu dans son ensemble, ça te permet juste, en tant que critique, d'être un peu plus intouchable à justement cet argument de dire « oui, mais... » Pardon. Oui, mais tu ne l'as pas fini. Du coup, si tu parles avec quelqu'un qui te dit, tu commences à critiquer peut-être un jeu qu'il adore, et il va te dire oui, mais tu n'as pas fini ça. Et ben en fait, si tu l'as fait, t'es un peu intouchable. Tu avais cité quelque chose quand on préparait l'émission et ça m'a bien fait marrer. J'ai regardé tous les films Twilight. J'ai regardé tous les films Twilight dans la pure volonté de dire que après, derrière, je pouvais lui sortir toutes les saloperies que je voulais, personne pourrait me dire « Oui, mais t'as pas vu tous les films ?» Eh ben si, mon petit Gérard, j'ai vu tous les films et je peux te dire que c'est de la belle saloperie. Voilà.
C'est un beau dévouement. Bah, moi, tu vois, j'ai vu Barbie, je peux dire que j'ai détesté, que j'ai trouvé ça stupide, mais pourtant, bah, personne ne me rendra les 2 heures de ma vie que j'ai perdu en le voyant, alors que
Il n'y a pas de SAV, ouais, ça par contre, ouais, c'est clair.
Tu vois, et c'est ça un peu que je reproche à la vie. Voilà,
de ne pas avoir de SAV.
De ne pas avoir de SAV quand on me fait perdre mon temps.
Donc, c'est important de critiquer. Avoir un esprit critique et une opinion propre à soi, c'est important. Il faut le faire avec parcimonie. Je ne connais pas cette personne, mais si vous
et
pouvez la chercher.
Et se renseigner aussi. Oui. Il faut admettre que des gens connaissent mieux certains sujets que vous et écouter leur avis. Se faire un avis en écoutant différents avis, c'est tout à fait possible aussi. Voilà, je veux dire, moi, je n'ai jamais vécu dans le socialisme anarchique et ça ne m'empêche pas d'en avoir envie.
Très bien. Et ne regardez pas Twilight, hein. Vraiment, c'était...
Mais pensez à aller aux toilettes. Et oui. D'ailleurs, nous allons nous laisser avec quelques recommandations pour cet été. On va vous laisser avec The Equals, Black Skin, Blue Eye Boy. Et je vais vous demander à tous d'aller dans votre placard, d'enfiler votre plus beau spandex fluo, vos baskets blanches, un bandeau. Et c'est le moment pour une séance de gym survitaminée, mesdames et messieurs.
Buvez de l'eau, hein, c'est important.
Oui, et amusez-vous bien en cette belle fin d'été. Profitez de la vie, de vos amis, de vos familles. Et à la rentrée de septembre.
Qui arrive très rapidement, 88, donc à très vite.
88.3 Radio Campus, c'était Amir et Clément pour Double Saut. À vous les studios.
On vous embrasse, bisous. Okay,
People, white is white, was black and clover.